RMC, les grandes gueules.
Et visiblement, cette proposition plaît à certains. Écoutez ce qu'en dit notamment Christian Grolier, le secrétaire général Force ouvrière fonction publique.
Les loyers ont augmenté énormément dans les grandes villes. Vu le salaire des fonctionnaires aujourd'hui, évidemment, tout le monde est obligé de s'éloigner pour pouvoir avoir un logement à peu près décent. Les trajets se sont bien sûr accentués. Faire en sorte que les fonctionnaires habitent plus près de leur lieu de travail, ce sera une bonne nouvelle. Il faut faire en sorte que tous les agents, quelle que soit leur mission, tous ceux qui ont besoin aujourd'hui d'être logés, parce qu'on a des fonctionnaires qui vivent dans leur voiture, puissent bénéficier de logements sociaux.
Alors, c'est donc la proposition du député Renaissance David Amiel qui remet un rapport au gouvernement sur les conditions de logement des travailleurs du service public. C'est vrai que parfois dans les grandes villes, c'est très compliqué de trouver un logement près de son lieu de travail. Et donc, il voudrait que ces travailleurs de première ligne dans la fonction publique soient privilégiés, qu'il y ait un avantage pour les policiers, les infirmiers, les profs, les surveillants pénitentiaires. Il s'agirait de logements de fonction alors d'un type nouveau, c'est-à-dire en cas de changement de profession. Si le policier décide de quitter la police, eh bien, il devra rendre son logement. Faut-il réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires? Je vous pose la question 32-16. Dans un instant, je donne la parole à David, mais je voudrais que, Joël, toi qui as travaillé dans le logement social, dans une autre vie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée?
Moi, je regrette qu'en fait, la question du logement soit prise par juste ce petit bout. En fait, puisque c'est un gros problème. Et je trouve que la proposition est, même si elle est pragmatique, c'est vrai que les fonctionnaires ont du mal à se loger. Je la trouve un peu populiste, quelque part, parce que dès que j'entends nos fonctionnaires, nos policiers, nos infirmières, je me dis, oula, ça va être populiste. Donc, comment ça se passe le financement des logements sociaux? Donc, il y a une part qui est financée par l'État, la Caisse des dépôts de consignation, Action Logement. Et donc, l'État a très peu de financement dans le logement social, ce qui fait qu'il a très peu de logements aussi. Donc, quelque part, quand j'entends ça, je me dis, est-ce qu'on va modifier le financement des logements sociaux? Est-ce que, du coup, les fonctionnaires pourront avoir plus de logements parce que l'État va mettre plus d'argent? Et quand on regarde, moi, en tout cas, quand j'y travaillais, l'État se désengageait de plus en plus du financement des logements sociaux. Donc, honnêtement, cette proposition, c'est pas qu'elle est mauvaise. Bien sûr que les fonctionnaires doivent avoir accès aux logements sociaux.
Oui, mais pourquoi plus des fonctionnaires que...
Mais c'est juste que c'est pas réaliste.
C'est pas réaliste. Très vite avant d'accueillir le député.
Moi, je pense que le plus compliqué dans les logements sociaux, comme il n'y en a pas assez, c'est trier qui y a accès, qui n'y a pas accès. Et vous avez fait un débat la semaine dernière, entre autres, sur des gens qui restent en place dans les logements sociaux, malgré que leur situation à la fois familiale et de moyens change. Je pense que le travail, il est d'abord là, quoi. Considérons que
Jean-Marc Bardella, par exemple, ce matin, disait, effectivement, s'il n'y a pas assez de logements, priorité aux Français.
Trop
d'étrangers dans les logements sociaux.
Après, quelle que soit la règle, est-ce que c'est les gens qui travaillent sur la première ligne en tant que fonctionnaire? Parce que je vois pas en quoi celui qui travaille sur la première ligne en tant que fonctionnaire ou dans le privé, c'est quoi l'écart? Quand t'as un petit salaire, t'as droit aux logements sociaux. Le problème qu'il y a, c'est qu'il en manque. Donc après, qu'il y ait un débat sur les règles de priorité et comment ceux qui ont plus de droits.
T'es d'accord avec cette priorité pour les fonctionaires ou pas?
Pas complètement. Je vois pas pourquoi. C'est les salaires qui doivent trier ces priorités-là.
Charles.
Moi, je pense que la France est un pays qui se soviétise. Et qu'en fait, on veut loger la fonction publique comme on le faisait en Europe de l'Est pendant l'Union soviétique. Et que ce pays est incapable de raisonner autrement que comme ça. Donc on crée des nouveaux postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron, loin d'avoir fait reculer, je l'ai noté, loin d'avoir fait reculer le nombre de fonctionnaires en France, a créé des postes de fonctionnaires. Je vais retrouver le chiffre dans un instant. 178 000 fonctionnaires créés entre l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée et fin 2022.
Alors qu'il avait promis l'inverse.
Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui en France 5,7 millions de fonctionnaires. Je ne sais pas si vous imaginez. Plus tous ceux qui vivent aussi.
Un quart des salariés, oui.
Plus tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui vivent quand même d'argent public. Croyez-moi que ça fait quand même énormément de monde, à mon sens, beaucoup trop. Et dans ce système fou, eh bien, j'imagine d'ailleurs que ces gens qui sont habitués à des logements de fonction, je ne parle pas forcément du jeune David Amiel en particulier, même si j'ai regardé son CV, il n'a pas travaillé longtemps dans le privé. J'ai vu moins d'un an à la poste.
Il va nous l'expliquer dans un instant.
Mais je sais que les logements de fonction sont courants aux postes divers et variés de la République. Moi, je suis pour le chemin inverse. Je suis pour la suppression des logements de fonction. Savez-vous, par exemple, que le gouverneur de la Banque de France, en plus de gagner à peu près, je crois, 300 000 euros par an, dispose d'une indemnité de 70 000 euros par an pour se loger. Mmh. Parce que vous comprenez, avec 300 000 euros par an, on ne peut pas se loger à Paris, c'est compliqué. Donc moi, je suis pour la suppression des logements de fonction et la sortie de cette logique soviétique. Je pense que la France doit retrouver, au contraire, de la liberté. Et par ailleurs,
c'est pas à l'État de loger ses
fonctionnaires. Je pense que ça n'est pas parce qu'on travaille pour l'État qu'on doit être débranché de toutes les contingences qu'affrontent les gens qui sont dans le privé.
Alors, David Amiel est avec nous comme promis. C'est le député Renaissance qui fait cette proposition. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les Grandes Gueules. Bon, il va falloir convaincre les Grandes Gueules qui sont assez sceptiques.
Oui, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait exactes dans ce qui a été dit. D'abord, il faut bien avoir en tête que le public a aujourd'hui moins d'instruments pour loger ses agents que le privé n'en a pour loger ses salariés. Oui. Puisque dans le privé, vous avez une structure qui a été construite progressivement qui s'appelle Action Logement, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qui investit dans le logement social sous différentes manières pour avoir des logements qui sont ensuite fléchés vers les salariés du secteur privé. Aujourd'hui, dans le public, vous n'avez pas ça. Et au contraire, vous avez des employeurs publics qui, depuis plusieurs décennies, se sont désengagés de leur responsabilité d'employeur, c'est-à-dire d'aider leurs agents à se loger. Et aujourd'hui, on a une situation qui est devenue insoutenable. On a des agents publics qui ne parviennent plus à se loger, qui font des heures de trajet, qui sacrifient leur vie de famille et qui parfois quittent le service public.
Et oui, parce que le prix des logements, le prix des loyers a explosé dans les grandes villes, c'est pour ça.
Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il y a une crise générale qui est que le logement est devenu inabordable pour beaucoup de travailleurs des classes moyennes et populaires dans les grandes villes, dans les zones frontalières, je pense à la Haute-Savoie, dans les zones littorales, touristiques. Et vous avez une crise spécifique qui est que le secteur public a moins d'instruments pour aider ses agents que le privé n'en a.
Pardon, mais le député, mais je ne sais pas d'où ça sort. Donc ça veut dire que votre majorité, non seulement, donc vous passez les fonctionnaires à 4 jours par semaine. Des fonctionnaires dont certains dans beaucoup d'administrations ne font même pas leurs 35 heures. Et en plus, ce sont des gens qui vont être logés maintenant aux frais de la princesse. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer un fonctionnariat comme il y en avait dans l'Union soviétique.
Pardon, Charles de Consigny, mais tout ce que vous venez de dire est inexact. Sur la semaine de 4 jours qui est expérimentée, ce ne sera évidemment pas dans toute la fonction publique et ça ne remet pas en cause la durée.
Ce sera seulement pour quelques privilégiés.
Non, mais la seule question, c'est de savoir, est-ce que vous faites 35 heures sur 5 jours,
ça, vous le savez
35
très
heures
bien.
Sur 4 jours, pas du tout. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui proposent, c'est simplement de donner à la fonction publique la capacité de le faire aussi. Certainement pas de travailler moins, au contraire. On s'est battu
vous
pour
savez
que,
très bien qu'à partir du moment où ils seront à 4 jours par semaine, ils travailleront moins.
Notamment dans les collectivités territoriales où la règle des 35 heures n'était pas respectée. C'est le cas, par exemple, à la mairie de Paris, où beaucoup d'agents travaillent moins que 35 heures. On les contraint, au contraire, à passer à 35 heures. Donc, ce n'est pas du tout notre approche.
Et
la question de l'hôpital, si on veut aujourd'hui avoir une réponse un peu pérenne à la question hospitalière, il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que tant d'agents quittent le service public hospitalier?
David Amiel, parce que moi, j'ai un exemple très concret. Je vois que les femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans les crèches, n'arrivent pas à se loger, par exemple à Paris. Donc elles font 2 heures de transport en commun par jour pour venir garder les enfants des petits Parisiens dans les crèches municipales parisiennes. Et d'ailleurs, on a du mal à recruter parce qu'effectivement, au bout d'un moment, elles font les calculs, elles se disent, est-ce que ça vaut le coup encore d'aller travailler parce qu'elles sont pas très bien payées. Tant pis, je travaille pas et mon mari travaillera. Voilà, c'est ça les arbitrages. Et j'apprends quand même que la mairie de Paris, qui a des logements sociaux, ne donne pas ses logements en priorité à ces femmes parce qu'elles sont pas parisiennes, elles viennent de banlieue. Donc moi je me méfie toujours de ces règles, parce que est-ce que c'est normal qu'un policier municipal parisien soit prioritaire sur cette femme qui fait 2 heures de transport en commun par jour
et qui gagne pas plus que lui,
qui gagne pas plus et qui gagne moins sans doute,
c'est ça le problème,
et qui va pourtant travailler à Paris, garder les enfants des petits parisiens?
C'est pour ça que ce qui est très important dans la proposition que je fais, c'est qu'il s'agit de produire des logements supplémentaires. Parce qu'effectivement, c'est exactement ce que je propose. C'est de pouvoir créer des logements supplémentaires, y compris des logements de fonction de type nouveau où des loyers seront payés. Puisque dans le logement social, dans le logement intermédiaire, vous payez évidemment des loyers quand vous les avez. Il ne s'agit pas de remettre de l'ordre dans une file d'attente qui, dans tous les cas, est trop longue. Le problème, c'est que la file d'attente est trop longue. Et donc, je propose, parmi les nombreux éléments que le gouvernement est en train de travailler pour avoir ce choc d'offres, c'est-à-dire cette construction supplémentaire de logements, d'avoir ce type nouveau de logement, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des logements sociaux qui sont aussi attachés à une fonction. Parce que vous êtes infirmière, vous pouvez y avoir accès, mais le jour où vous quittez cet emploi, eh bien, oui, donc vous
c'est
le donnez
à une autre infirmière. Mais c'est des logements de fonction.
Vous généralisez à la campagne des gendarmeries, et dans les gendarmeries, il y a des
généralisés.
Oui, ça existe.
Oui, mais
les gendarmes, ils sont logés.
Mais il faut arrêter avec les logements de fonction. Tout le monde n'a pas besoin d'un logement de fonction. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, monsieur Amiel, pourquoi est-ce que vous avez recruté 178 000 fonctionnaires depuis 2017. Ça m'intéresse.
Il y a évidemment beaucoup de questions différentes, monsieur Consigny, vous le savez très bien. D'abord, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont recrutés dans les collectivités territoriales. Ça, c'est pas à la main du gouvernement. C'est pas de la majorité présidentielle. Non, mais c'est important de le rappeler quand même. Et puis, par ailleurs, moi je le dis, la question n'est pas celle du nombre de fonctionnaires. C'est surtout de savoir quels fonctionnaires. Parce que oui, on a besoin de recruter dans l'hôpital, on a besoin de recruter dans l'éducation, on a besoin de recruter dans les services de sécurité. En revanche, on a effectivement besoin de faire des économies dans les fonctions support, dans les fonctions administratives. Vous avez cité un certain nombre de choses. Et c'est comme ça, je crois, qu'on aura un service public de qualité, pas en ayant des chiffres qui sont l'amalgame entre des situations très différentes.
Merci, monsieur Amiel, pour ces explications. On va continuer, bien sûr, d'en débattre avec vous au 32-16. Donc, est-ce une bonne idée de réserver ces logements sociaux aux fonctionnaires? Est-ce la solution face à la pénurie de logements, même s'il dit qu'il faut quand même construire plus de logements, et face à la difficulté de trouver des logements bon marché dans les centres-villes? On continue d'en discuter. À tout de suite avec vous sur RMC, RMC Story. On revient à notre discussion autour de cette proposition du député Renaissance David Amiel, réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires, aux policiers, aux profs, aux surveillants pénitentiaires qui ont du mal à se loger dans les centres-villes car les loyers sont trop chers, il n'y a pas assez de place. Est-ce que c'est une bonne idée? Yves est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes retraité de la fonction publique, vous auriez pu bénéficier de cet avantage?
Non, comme j'ai dit à vos collègues au standard, moi j'avais la chance d'avoir le travail à 5 minutes de chez moi. Bon, j'habite au sud de la Haute-Garonne, à côté de Saint-Gaudens, quoi. Donc j'ai travaillé dans une collectivité territoriale. J'ai commencé un peu au service ordures ménagères. Après, comme je suis cuistot de métier, il y avait des places qui se sont libérées en collectivité. Donc comme c'était mon domaine, donc voilà. Donc j'ai 25 ans de fonction publique territoriale. Et avant, j'ai travaillé dans le privé en tant que cuisinier et boucher-charcutier aussi. Donc voilà. Donc, mais par rapport à ce sujet, je trouve que ça serait très bien pour les gens qui sont en début de carrière, parce que comme vous le savez, en début de carrière, un fonctionnaire territorial catégorie C, donc c'est pas des salaires mirobolants. Donc je me mets un peu à la place des gens qui habitent en banlieue parisienne et qui ont 2h30 voire 3h de transport. Donc j'ai pris l'exemple au standard des agents de la propreté de la ville de Paris qui sont soit ripeurs, c'est-à-dire le ramassage d'ordures ménagères ou le nettoyage. Ils ont un trajet déjà assez conséquent, des salaires, je vous dis, pas mirobolants au départ, et les horaires de travail décalés. Donc, quand vous êtes...
C'est quoi la
différence avec une caissière?
Une femme de ménage?
Avec une caissière, oui.
Oui, mais pourquoi privilégier les fonctionnaires? Parce que, par exemple, moi, je connais plein de gens, les aides ménagères qui bossent en privé, elles ont exactement les mêmes problèmes, et pourquoi elles seraient discriminées au profit d'un fonctionnaire?
Non, c'est pas la discrimination, mais ça pourrait aider tout le monde. Je dis pas que les fonctionnaires.
La proposition du
c'est le principe des HLM.
La proposition du député, c'est de dire il faut réserver les nouveaux logements sociaux aux fonctionnaires.
Oui, mais je pense que des fois certains fonctionnaires au début de carrière, imaginez vous passez un concours. Maintenant, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont embauchés, qui sont contractuels stagiarisés et titularisés. Bon, ça les aide, ça c'est clair. Mais imaginez quelqu'un qui... Voilà, donc après, je vais aussi dans votre sens, où il ne faut pas discriminer une caissière de supermarché, ils ont des salaires moindres. Mais bon, à un moment donné...
Mais est-ce qu'on risque pas, pardon, mais Yves, et je pose la question aux grandes gueules, est-ce qu'on risque pas de créer, une fois de plus, de la jalousie, un privilège pour les fonctionnaires sur le privé, alors que les salariés du privé sont pas forcément mieux lotis en matière de logement, de transport et de salaire?
Mais ce que je... on va enlever le pain de la bouche de personnes qui financent la construction de logements sociaux pour les donner à des personnes qui ne financent pas ou très très peu, comme l'a dit le député, la construction de logements sociaux. Ensuite, je rappelle que 70% de la population est éligible au logement social. Ça fait pas un petit peu beaucoup? Enfin, vous trouvez
c'est
pas
ça,
que c'est un petit peu beaucoup que 70% oui. des Français
en fait, on devrait loger
soient
tout le monde,
éligibles quoi. Au logement social. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une société complètement paupérisée.
Assistée enfin, aussi.
Il faudrait, bon, non, mais il faudrait déjà enlever de tout ça. Et il faudrait mieux payer les fonctionnaires qui puissent se loger dans le privé. Il faudrait libéraliser le privé parce qu'en fait, l'accès au logement privé, c'est une galère. Mmh. En fait, il faudrait carrément révolutionner le logement. Mais ce qu'on fait, c'est on va construire plus de logements,
on gère la pénurie.
Plus de logements sociaux, plus de fonctionnaires. Là, on va avoir 75% des Français qui vont être éligibles au logement social, puis on va aller jusqu'où comme ça?
Non, mais c'est ça le problème. Enfin, le député nous a dit on ne réduira pas la taille de la file pour arriver au logement social. Moi, ce que je crois,
c'est immense,
plutôt que d'installer des coupe-fil,
oui,
il vaudrait mieux revoir les critères qui donnent le droit d'être dans la file, quoi. Écoutez, qu'aujourd'hui 70% des gens sont éligibles aux logements sociaux, ça veut dire qu'il y a des gens là-dedans qui pourraient se loger sans les logements sociaux.
Mais
ça veut dire qu'il faut revoir les critères.
Pardon, mais ce qu'ils font, parce que pardon, il n'y a pas 70% des Français dans les logements sociaux. Donc majoritairement, les Français se débrouillent. Il y a des listes d'attente. Le problème, c'est
mais
que
ça veut dire que les critères sont trop larges, Olivier.
Non, ça veut dire que les logements on devrait les faire tourner plus souvent.
Les gens sont trop pauvres, Didier.
Mais oui,
aussi. Mais non, ça veut dire que il faut les gens, si les gens étaient mieux payés, ils n'auraient pas besoin de logement social. C'est ça.
Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre l'offre en face de la demande? Enfin, la demande en face de l'offre. C'est dire aujourd'hui, il y a 100 000 logements sociaux, je prends un chiffre au hasard, il y a 100 000 logements sociaux, faisant en sorte que les critères, ils donnent accès à 100 000 personnes.
Ce que je vois, c'est, pardon, mais c'est tout bête. Il se passe en France, à une échelle peut-être un peu plus faible, ce qui s'est passé dans tous les pays collectivistes. Plus vous créez de logements sociaux, plus vous créez de postes fonctionnaires,
de la paupérisation,
plus vous avez besoin de prélever de l'argent sur l'économie.
Ouais.
Plus vous prélevez de l'argent sur l'économie, moins les gens sont payés, moins l'économie est dynamique, plus vous avez besoin de logements sociaux. Et donc, plus vous en construisez et plus vous avez besoin de fonctionnaires, et donc plus vous en recrutez, et c'est un cercle vicieux dans lequel la France est malheureusement durablement enfermée, parce que même des gens comme ce jeune Amiel, qui est multidiplômé, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, jeune parisien, etc., même dans la tête de ces gens-là, germe ce genre d'idées en France. Donc forcément, vous ne pouvez pas avancer.
C'est le schéma de la mine, hein. Les sociétés houillères, en 1850, ils ne payaient pas leurs ouvriers, ou très peu.
Mais ils les logeaient.
Par contre, ils les logeaient, ils leur donnaient du charbon, à peine ils les nourrissaient, mais ils les soignaient, ils amenaient l'éducation à leurs enfants, voilà. Ils étaient pris en charge de la naissance jusqu'au cercueil, quoi, les mineurs. Et je pense que ce système-là, t'as raison, Charles, c'est un cercle vicieux qui fait que tu donnes de moins en moins, parce que on dit l'employeur, il faut qu'il, enfin là, Amiel, il nous a dit il faudrait que l'employeur assure le logement, mais en fait l'employeur il a qu'un truc à assurer, c'est un salaire décent, et puis après les salariés ils se débrouillent, quoi, hein.
Et il y a deux choses, c'est que il faudrait que l'État fasse en sorte qu'on puisse construire plus facilement des logements en France, moins de normes, moins de d'attentes. Là en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on impose des normes écologiques, ce qui fait que il y a des propriétaires qui pourront même plus vendre leur logement parce que ça sera tellement compliqué, il faut faire des travaux considérables, donc au bout d'un moment t'as pas les moyens, donc tu le fais pas, donc on impose de plus en plus de normes, de règles, de contraintes, donc le logement est bloqué en France, on réduit les aides, on réduit les systèmes Pinel, etc. Mais je pense que de toute façon c'est l'un des grands échecs de Emmanuel Macron, le logement. Il y a une crise considérable, et puis là maintenant, comme c'est une pénurie, on gère la pénurie, on se dit bah non, finalement maintenant c'est les fonctionnaires qui sont prioritaires. Jordan Bardella nous dit c'est les Français.
Oui.
Un autre nous dira c'est les petits, un troisième va nous dire c'est ceux
les
qui
roux.
Sont c'est les roux ou les chauves, enfin en fait c'est on gère la pénurie,
oui mais enfin
parce qu'on règle pas le problème de fond
qui est le salaire et la construction.
Qui est le salaire et la construction, c'est-à-dire que les moyens que les gens puissent se loger avec leur salaire décemment, et qu'il y ait suffisamment de logements pour que les loyers ne flambent pas.
Ce qui est fascinant avec la Macronie, c'est que le salarié mal payé du privé,
oui,
et vraiment en permanence la 40e roue du carrosse. Mmh. C'est-à-dire que l'ultra riche, alors lui, oh là là, on va lui mettre une flat tax, on va baisser ses impôts sur les successions, sur ses revenus des dividendes, on va surtout le consolider le plus possible. Pourquoi ? Parce que en fait, on travaille pour lui. Quand on est un homme politique aujourd'hui, et le policier, le fonctionnaire, etc. Comme en fait on vit planqué derrière un cordon de CRS depuis 2017, eh ben il s'agit de l'augmenter, le flatter, le protéger, etc. Donc c'est les 4 jours de travail par semaine, dont on nous soutient en dépit du bon sens qu'on fera quand même les 35 heures, alors qu'en fait, ça ne va faire que
travailler en 4 jours.
Abîmer encore plus l'inefficacité de l'administration. C'est quand même ça qui va se passer en pratique. Mais alors, par contre, le petit salarié normal qui travaille normalement dans une boîte, le petit artisan, etc., qui galère, alors lui, rien. Lui, c'est juste des taux d'imposition, de prélèvement absolument maximum et rien d'autre. Ça, je suis désolé, mais ça devient suffocant.
On ne se rend pas compte à quel point ça influence le choix de carrière des gens. Je crois qu'on ne se rend pas compte que le fait de mettre en face d'un salaire des avantages qui, quelque part, dépassent un petit peu le salaire, les gens, ils choisissent en disant, si je suis fonctionnaire, j'aurai un logement. Bon, j'aurai 1000 euros de salaire, mais au moins j'aurai un logement. Et puis j'aurai des bons alimentaires, des bons de rationnement, etc. Je vais prendre ça. C'est le choix de carrière qu'ont fait beaucoup d'agents, par exemple SNCF, de cheminots, qui avaient un tout petit salaire et qui ont regardé en face les avantages, à savoir la retraite à 50 ans, etc., la prise en charge d'un logement, et qui se retrouvent un petit peu maintenant arnaqués, parce que... Avec les années, on fait baisser les avantages et ils se disent, mais merde, j'ai pas assez de salaire. Mais c'est vraiment un cercle vicieux. Faut vraiment remettre au cœur de la rémunération le salaire et pas les avantages qui vont avec. Alors, comme si on était des communistes.
Faut-il réserver les logements sociaux aux fonctionnaires? C'est la question qu'on vous posait sur notre compte X, le compte des GG sur les réseaux sociaux. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On regarde le résultat, eh ben vous dites oui quand même. Eh oui, c'est les Français qui ont participé à ce vote disent oui à 58%. 58%, non à 42%. Donc finalement, la proposition du député Amiel est plutôt plébiscitée.